Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'After. C'est la 13e nuit de l'After en direct de notre studio new-yorkais. Ici, la Coupe du Monde continue et l'After est là sur tous les matchs, toutes les nuits, bien sûr, avec vous en direct sur RMC, en direct sur la chaîne YouTube de l'After Foot jusqu'à 5h du matin. L'After Première Radio de France le soir et la nuit, évidemment, avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Ce soir, nous avons le privilège d'avoir parmi nous un néo-américain.
The King of London.
King of London aussi, mais là, c'est Prince of Manhattan, Kevin Diaz. S'il vous plaît.
Salut à tous. Ah d'accord, je pensais.
J'aurais pas distribué les titres de noblesse de cette façon.
Et le King of London, Julien Laurence.
Salut Gilbert, salut à
God
tous.
God save the King.
Salut Julien.
God save the King.
Un Prince of Manhattan, parce que Kevin à Manhattan, il faut savoir qu'il a fait toutes les rues.
Ah, il est chez lui. Hein.
Toutes les avenues.
Incroyable.
Tous les quartiers.
Il connaît tout.
Limite tous les restos.
Ouais. J'ai enfin pu montrer que je parlais un petit peu anglais. Ah bien. Contrairement à cette légende urbaine.
Bon, bravo Kevin. Et en plus, il regarde tous les matchs.
Ouais.
Ça qui est fort.
On essaye.
L'événement ce soir dans l'After, c'est bien sûr le match de l'Angleterre qui vient de se terminer 0-0. Analyse, évaluation dans quelques secondes. On parlera également du Portugal et de Cristiano Ronaldo, le Portugal qui a largement battu l'Ouzbékistan un peu plus tôt tout à l'heure. À 1h du matin, tout à l'heure, l'équipe de France sera au programme. Faut-il mettre l'équipe type contre la Norvège? On en débattra. À 1h30, tout à l'heure, Julien nous dira pourquoi il adore voir les stars du foot mondial se tirer la bourre. On a vu Kane. Bon, là, il a tiré la bourre de personne, mais les autres sont là pour l'instant. Et puis à 2h du matin, tout à l'heure, Kevin, lui, donnera son avis sur le Sénégal. Parce que Kevin a vu au stade deux matchs du Sénégal.
Oui, les deux matchs du Sénégal pour l'instant.
Voilà, en plus de visiter New York le matin au soir, il a tout vu, c'est magnifique. Quelle vie. Oui. Walid Nacherchaud nous rejoindra également tout à l'heure pour nous donner son avis sur la sélection algérienne après la victoire d'hier soir et puis les matchs de la nuit. Et donc, outre le Portugal qui a battu l'Ouzbékistan 5-0 tout à l'heure, outre Angleterre-Ghana qui vient de se terminer 0-0, on aura à 2h du matin tout à l'heure Panama-Croatie dans le groupe de l'Angleterre et à 4h du matin Colombie-République démocratique du Congo. Match à suivre évidemment sur RMC. Petit point classement pour le groupe de l'Angleterre, les gars, après le 0-0. L'Angleterre a 4 points, le Ghana a 4 points, le Panama et la Croatie avec un match en moins ont 0 points. Donc, le Ghana et l'Angleterre sont virtuellement qualifiés, puisqu'avec 4 points, tu as 95% de chance d'y être. Donc, voilà, on va dire que ça, c'est.
Comme tout le monde se qualifie en même temps.
C'est réglé.
La dernière fois que j'ai entendu qu'il y avait 95% de chance d'être qualifié, c'était pour Marseille en Ligue des Champions. Donc, des fois ça peut pas passer quand même.
Avant Marseille Tottenham et Colosinage.
Avant Marseille
Benfica
Real.
Je vois pas comment tu peux ne pas passer là.
En fait. À là 4 points,
avec 4 points c'est impossible. Ouais.
Comment il s'appelle le gardien de Benfica qui a marqué?
Trubin. Anatoli.
Pas pourquoi on rappelle ce mauvais souvenir en Marseille. Julien, c'est toi qui va démarrer parce que on veut comprendre.
Ouais, très décevant, j'ai trouvé.
Ah, top! On va même démarrer avec Tourelle, parce qu'on est détenteur de droit, donc on s'est stylé, on peut avoir les réactions comme ça. Donc, Julien, tu vas en plus pouvoir nous traduire Tourelle avec son magnifique accent.
On y va.
Yeah, if it should drop to anybody, it should drop to Harry.
Sur l'occasion d'Harry Kane, si ça tombe sur un joueur, ça doit tomber sur Harry. En général, c'est une grosse occasion, une double grosse occasion même, et en général, il aimait celle-là. C'était difficile, on savait avant. Ils ont été encore plus défensifs que lors dans leur premier match, dans un 4-5-1. Et si tu ne marques pas tôt, il faut être très patient. Mais c'est difficile de garder ton intensité. À la fin de chaque mi-temps, on a eu un peu ces moments-là. Et on n'a pas pu avoir la récompense qu'on méritait. Les remplacements offensifs ont fait une différence. Est-ce que ça vous encourage? C'est encourageant. Oui, on a très bien défendu leur transition, leur contre-attaque pour la plupart du match. On a été très vigilant et être très concentré à propos de ça. Et les remplaçants ont eu un gros impact, ont été très bons encore. Est-ce que ça change quelque chose pour le Panama? J'ai aucune idée. Je sais pas, j'y penserai après. Le Panama, c'est dans 4 jours. Question pourrie en fait à la fin, il a dit.
Bon, voilà pour Tourelle. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas réussi à marquer, Julien?
Bah, il a raison dans le sens où s'il y en a une qui doit tomber sur quelqu'un et elle tombe sur Harry Kane, en général, tu te fais pas de soucis. Et c'est vrai que celle-là, la volée du gauche, là, quand le ballon rebondit après la transversale d'O'Reilly, il en a mis des centaines des comme ça. Il peut même, je pense, attendre encore un petit peu que le ballon descende et que la volée soit plus facile à effectuer. Le expected goal de cette occasion-là, c'est 0,35. Donc, c'est des occasions que les joueurs de ce niveau-là marquent. Et c'est vrai que, en plus, pour lui, de la rater, c'est surprenant. Mais il a manqué de rythme dans toute cette rencontre. Ils ont jamais su le trouver. Ils ont jamais su lui le mettre dans des bonnes conditions non plus. C'est une équipe d'Angleterre qui a manqué de créativité, qui a manqué d'idées.
Donc le 4 tirs cadrés,
effectivement. Alors c'est dur, le Ghana a très bien défendu, encore une fois, dans un bloc très bas, c'est vraiment pas facile, surtout si
ils ont 79% de possession.
Ouais, je crois que c'est la plus haute possession de la Coupe du Monde pour l'instant, effectivement. Mais tu trouves pas les décalages, tu trouves pas les solutions, c'est dur, c'est physique en face, il y a beaucoup de centres, mais au final, des centres pour rien, pour personne. Et moi, je suis un peu surpris par certains choix de Tourelle, que tu fasses pas rentrer un autre attaquant, par exemple, un Tony ou un Watkins, à partir du moment où tu fais le siège de la surface adverse, tu peux encore avoir un Tony par exemple, qui lui en tout cas physiquement peut aller beaucoup plus que Kane ou beaucoup plus que Saka ou même beaucoup plus que Rodgers au duel avec les défenseurs centraux ghanéens par exemple. Donc dans ses choix, Rashford est entré très tard, même Saka est entré très tard, il a enlevé Anderson très tard aussi, donc j'ai un peu déçu par le management dans la rencontre de Tourelle.
Daniel.
Bon, encore un match totalement déséquilibré avec un adversaire qui est quasiment à zéro d'XG, donc qui n'est pas là pour jouer au foot. Donc le Ghana est là pour avant tout défendre. C'est une équipe de Carlos Queiroz, donc construite pour défendre, une équipe de catcheurs. Le seul intérêt de la rencontre, en gros, c'est de savoir si combien de temps ils vont tenir et si par miracle il peut y avoir un braquage. Donc c'est ça l'intérêt, c'est que le gros joue un petit qui n'a pas toujours été petit dans l'histoire du foot. Hein. Le Ghana a eu des belles équipes de foot dans le passé, mais il se trouve que là ils sont pas sur une bonne génération.
Quart de finaliste de Coupe du Monde.
Exactement, ils sont sur une génération où ils ne peuvent faire guère mieux que ce qu'il propose là. Donc c'est mur de ciment. Et puis après on est là nous à chercher le pourquoi l'Angleterre n'a pas gagné. L'Angleterre doit gagner 100 fois le match. Donc il faut trouver les explications. Les explications. J'en pioche dans. Enfin, d'abord je veux dire. Ce résultat ne me procure aucune inquiétude quant à la suite de la compétition pour l'Angleterre. S'ils ne doivent pas aller plus loin, ce sera pour d'autres raisons que celles qu'on a vues ce soir. Maintenant, dans le match de ce soir, ce qui peut m'intéresser, c'est des pistes ouvertes par Julien concernant les choix de Tourelle. Là, effectivement, si l'Angleterre veut aller loin dans cette compétition et que c'est avec les côtés qu'on a vus ce soir, là, je vais avoir du mal. Moi, que Madueke joue dans cette équipe, je ne peux pas. D'abord, au début, j'avais même pas compris pourquoi il était dans la liste. Donc, le voir titulaire, c'est encore plus surprenant pour moi. L'autre côté, on me dit que le petit Gordon, là, ça va, c'est bien, c'est une récompense, c'était la fête. Certains étaient même surpris, lui, pour le coup, qu'il soit dans la liste. Très bien. Avec ces deux joueurs-là, non. D'ailleurs, à partir du moment où, et même sur le match d'avant, Saka et Rashford entrent, c'est une autre équipe. Alors, est-ce que c'est parce que Saka est pas encore à 100% et l'avenir va lui donner place libre pour qu'il soit titulaire dans l'équipe? Je l'espère. Même chose pour Rashford. Ça, c'est véritablement pour moi des handicaps qui fait que probablement contre cette équipe très rude, hyper costaud physiquement, s'ils se mettent en bloc, il y a beaucoup d'autres équipes qui vont se casser les dents sur une équipe comme ça. Donc, pas d'inquiétude pour l'Angleterre, mais il faudra quand même rectifier certaines choses. Après le match, tu peux toujours dire, tu vas débriefer, tu vas machin. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement, à analyser dans une rencontre comme ça, où ça se joue à 80% de possession de balle et où tu joues juste un bloc de béton, quoi. C'est très compliqué. C'est le match de l'Espagne contre le premier contre le Cap-Vert. Mmh. Si tu ouvres un peu le score, après, si tu ajoutes à ça une occasion monumentale ratée par Kane, tu te retrouves avec 1-0-0.
Tu fais le jeu quand même, le pénalty ou pas pour le Ghana?
Oui. Ça aurait été le braquage. Moi, je dis péno.
Moi, je pense aussi.
Moi, je pense péno.
Moi, je pense qu'il lui arrache la jambe.
Pour moi, ça me semble évident qu'il y a péno aussi.
Ouais, mais après, c'est un arbitrage à l'ancienne. C'est un VAR qui n'intervient que pour le coup. Là, le concept d'erreur manifeste est respecté dans le sens où le VAR n'intervient que c'est du 100%. Mais comme on est sur un truc un peu à l'ancienne où effectivement on avait, quand il y avait pas le VAR, ce genre de truc, on était là à se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a pas sifflé et tout? Bon, là, on est dans cette salle. On est quatre. Trois à dire il y a péno. Kevin, il dit non. Bon, bah, ok, c'est le truc à l'ancienne. C'est vrai. On respecte et puis c'est tout. Mais ça me dérange pas. Mais c'est assumé. Mais il faudrait l'assumer. Alors moi, j'aimerais bien que ça arrive partout comme ça. Quoi.
Non, mais moi, on a beaucoup.
Mais pour moi, il y a péno.
On a beaucoup et je l'entends. Quand je regarde l'image, je me dis pas non plus. C'est un scandale s'il siffle penalty. Mais je ne trouve pas que ce soit un scandale s'il ne le siffle pas. Et ça tombe bien puisque l'arbitre qui est pour officier dans ce match, c'est le seul juge. Normalement, ouais. Le seul juge, en tout cas selon les lois du football ancestral. Maintenant, on a rajouté une technologie.
Ancestral.
C'est important, c'est important.
Si je voulais chipoter, je te dirais, attention,
dans un film d'époque.
Un arbitre n'est pas un juge. Sémantiquement, c'est important.
Oui, il
c'est
est là pour arbitrer.
C'est pas un juge.
Il est là pour arbitrer.
Voilà. Donc il doit trancher.
Il a tranché et pour lui, il n'y a pas faute. Et c'est pas à quelqu'un de l'appeler pour lui montrer quatre fois une image. Bon, ça, on le dit assez dans l'after. Et moi, petite parenthèse, j'ai entendu.
Ou là, ça devient un juge.
Exactement. J'ai entendu l'avis de Daniel il y a quelques jours. Je suis complètement d'accord. Pour moi, l'arbitrage dans cette Coupe du Monde, il est juste parfait.
Ouais, je suis d'accord.
Il va y avoir des erreurs, mais j'en ai rien à faire qu'il y ait des erreurs.
Ouais,
parce que dans la vie, il y a des erreurs.
Ouais, je suis d'accord.
Des fois, tu trébuches.
On est sur un truc à l'ancienne.
On est sur un truc.
La plus grosse erreur avant le penalty, c'est la première touche de balle de Prince Adou. Là. Il fait n'importe quoi. Déjà, avant ça, rien que pour ça, il ne mérite pas le penalty. Déjà.
Exactement. Rien que pour la technique.
Ah là, il a le pied en métal.
J'ai peut-être
fait. C'est bien en métal. Il n'y a plus de sensibilité. Il a coupé le nerf. Dans le pied, il a plus senti le ballon.
Je vais peut-être faire bondir dans les chaumières. Encore une expression très à la mode. Mais pour moi, quand tu es aussi nul dans le jeu, en fait, tu ne mérites même pas un penalty sur le moindre contact dans la surface.
Ça va. Ça non. En revanche, ça.
C'est marré.
Et on peut être ironique, mais ça, il y a pas l'explication. Bah, tu mérites pas parce que t'as les pieds carrés.
Moi, je le crois.
Il y a péno. On s'en fout que le mec, il est à l'envers.
Moi, je le pense.